Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Bonjour, je m'appelle Rachel Maisonneuve. Je suis artiste-chercheuse et réalisatrice sonore. Je vais vous partager mon univers, celui du monde carné, et les réflexions qui en découlent, qu'elles soient environnementales, éthiques ou politiques. Tout d'abord, vous entendrez ma dernière création sonore, Cérémonie pour un veau, un docu-fiction sorti en 2024 et coproduit avec le labo de la RTS. Après cette écoute, suivra un débat qui permet de poursuivre la réflexion en présence d'éleveurs. Enfin, l'immersion se terminera par un extrait d'une autre création sonore intitulée « Viande sensible ». À la fin de cette expérience, je vous invite à vous demander, sans jugement, si c'est le cas, pourquoi mangez-vous de la chair animale, dit plus banalement, de la viande ? Bonne écoute.
Tous les animaux se nourrissent, mais seul l'être humain cuisine. Je m'appelle Julien Beglen et en tant que célébrant humaniste, j'aimerais remercier Rachel Maisonneuve pour la confiance témoignée. Chers invités, depuis l'aube des temps du banquet de Platon au festin de Babette, la nourriture est synonyme de rassemblement, de partage, mais aussi de transmission. Les rites autour du repas ont une signification beaucoup plus profonde que ce que l'on veut bien admettre. Si l'on y prête attention, une certaine vision de la vie y est communiquée, un certain sens du sacré peut-être aussi. On peut ainsi considérer le repas comme un rituel, mais dans un monde aussi individualiste qu'industrialisé, où l'on a réussi à désincarner les aliments, il y a comme un arrière-goût d'imposture. Or, nous avons besoin d'une foi en ce que nous mangeons, et à défaut d'une prière, nous vous invitons ce soir à une commémoration.
Je vous accueille aujourd'hui dans ce restaurant des Trois Plis afin de rendre un dernier hommage ce soir, à Flash le veau. Flash, qui a eu une vie éclair, si vous me passez l'expression. Nous allons ensemble nous représenter cette vie. Nous allons honorer la mort de Flash, mais surtout nous rappeler ce privilège que représente un repas rituel. Mangeons-nous pour vivre ou vivons-nous pour manger ?
Alors, comme mise en bouche, j'aimerais vous inviter à passer à table pour ce repas musical et donner la parole à celle qui est à l'origine et à la conception de cette proposition artistique, Rachel.
Aujourd'hui, on est plongé dans un paradoxe où on souhaite toujours plus de viande, mais où la mort qui lui est attachée est bannie de notre monde social et est devenue tabou. Pour nous, citadins, l'animal élevé pour être mangé ne fait plus partie de notre quotidien. Je me suis demandé comment je peux me rapprocher de l'animal que je mange pour envisager une éthique de carnivore. J'ai organisé ce repas ritualisé et me suis posé un tas de questions. Apprécie-t-on vraiment son goût, sa chair ? Que savons-nous de cet animal ? Pouvons-nous l'honorer comme un être humain ? Est-ce que sacraliser ce moment culinaire rend plus légitime sa consommation ? En mangeant ce veau, est-ce que j'avale pas un bout de mon enfance ? Que signifie manger un enfant animal ? Que signifie être veau ?
L'objectif de cette soirée était d'imaginer et créer une cérémonie pour ce veau, tuer et manger. Investir ce monde gustatif, la manducation pour se reconnecter à notre propre chair et par ce biais, éviter cette dissociation cognitive. Lui rendre hommage et assumer nos actes ce soir en les conscientisant à travers des mots, des gestes, des manipulations, des manières de faire, nous avons souhaitez vous amener dans cette nouvelle dimension, un peu en dehors de notre brouhaha quotidien. Première entrée, tête de veau, sauce gribiche. Né le 28 avril 2021, dans la matinée, Flash est un Jersey, une race à viande. Croisé Limousin, une race laitière, et a grandi à la ferme du Bornalais à Panta, dans le canton de Vaud, une exploitation agricole qui se transmet ainsi depuis 9 générations. Son père s'appelle Ribéry, un taureau de saillie naturelle en estivage, et sa mère, Fantaisie. Arrivée en octobre 2019, car c'est une vache louée, et sa grand-mère, France, souche, mère race Jersey, mais avec un petit contour autour des yeux, noir. Comme le veut la tradition, les deux lui ont transmis son initiale, F, la première lettre de la mère, ce qui donne donc un mélange intéressant, la couleur de la mère, mais avec la morphologie du père. Flash est né en premier. C'était un tout petit veau, 15-20 kilos, suivi par Flora, sa sœur jumelle. De matricule 2357, il a tout de suite été catégorisé comme veau d'engraissement. Et l'abattage a eu lieu le 12 octobre à 7h12.
Bonjour, vous avez des papiers ?
Je suis désolée pour le retard. Alors le pauvre, s'il a quelque chose dans le ventre, il a plus rien. 8 minutes, mon lavis ici. Je dis, s'il a quelque chose dans le ventre ce matin, il a plus rien dans le ventre. Moins de 8 minutes depuis mon lavis. Je suis désolée, bonhomme. Je suis désolée, mon gros. C'est un ours, il tient tout. Il n'y a jamais de problème de santé avec lui.
C'est un ours, il tient tout.
Une machine de guerre.
Une machine de guerre. Effectivement, Flash aura tout tenu. Ou presque. Flash est devenu viande en 25 minutes. 350 kilos, 55% de rendement à l'abattage et donc 45% de déchets. Je vous invite à écouter le point de vue de Virginie Bischoff, l'éleveuse.
Alors, par rapport à l'abattage, donc c'est toujours moi qui amène mes bêtes à l'abattoir. Je ne fais jamais charger par quelqu'un. Mes veaux d'engraissement, mes veaux qui sont dans ce box, depuis le moment où je les place dans ce box, enfin même
lui qui est né chez moi, je savais que c'était, c'était déjà un mâle, et en plus une race à viande, pour moi c'était d'office un veau d'engraissement. Je m'interdis de m'y attacher en fait. Je reste quand même... J'ai la sensibilité d'une maman, quoi. Je suis trop sensible pour ça. Je me laisse pas m'y attacher. Donc, alors Flash, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je l'aime un peu plus que les autres parce qu'il est très câlin, il vient de demander des câlins. Mais je dirais que ça fait 2 mois que je l'évite un peu pour pas m'y attacher. Je le fais volontairement parce que sinon c'est trop dur de le charger après. Là, je débranche complètement le cerveau, je pars sur off et une fois qu'ils sont dans ce box, pour moi, c'est affreux, mais c'est des morceaux de viande, quoi. Si je commence à m'attacher à l'animal vivant, j'arriverai jamais à les charger et encore moins à les décharger. Je ne pense pas. C'est moins dur.
Interview réalisée sur place du vivant de Flash par Rachel.
Deuxième entrée.
Bouillon de pied, retour d'Asie. De l'Inde à l'Égypte, en passant par la Mésopotamie, la vache a toujours été un animal sacré, par excellence, considéré comme la mère universelle, un puissant symbole de maternité, d'abondance, de fertilité et de prospérité. Dans quelle mesure le fait de retirer et séparer le petit veau de la vache dès sa naissance n'impacterait pas leur vie? Je vous propose d'écouter le point de vue de l'éleveuse.
Alors, par rapport à la misbah, alors j'ai vu que la misbah de Flash. Flora a vu que je m'y attendais absolument pas, je ne l'ai pas vue. Flash, ça s'est passé super vite. Elle a perdu les os en l'espace de 2-3 minutes. Il était dehors, j'ai quasiment rien dû faire. Alors, comme j'étais là par principe, j'ai aidé pour que ça aille plus vite, pour soulager Fantasy un peu plus vite. Mais elle aurait pas eu besoin de moi, elle l'aurait fait sans problème toute seule. Et puis, à la naissance, on laisse pas les veaux sous la mer. Dans les exploitations vaches laitières, on les retire immédiatement. Donc, juste le temps, en fait, de récupérer 1-2 minutes, de voir que le veau et la vache vont bien, et on les sépare. La vache peut jamais lécher son veau, peut pas le faire téter. On fait ça pour qu'elle nous donne le lait à nous, à l'industrie laitière, en fait. Si on laisse le veau téter, elle aura beaucoup plus de peine à nous donner le lait. Elle retiendra son lait, elle fera une rétention. Et puis du coup ça compliquera énormément la mise en route de la traite. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, je trouve. Depuis que je suis maman, séparer les veaux à la naissance, je trouve que c'est barbare, je trouve que c'est la pire partie de mon travail. Autant j'adore assister les mises bas, et puis autant je déteste séparer le veau à la naissance. Je trouve que c'est inhumain de faire ça. Mais après c'est mon gagne-pain, c'est ma vie, je suis obligée de le faire, sinon ça tombera, j'y arriverai beaucoup moins bien sûr. Mais c'est quelque chose de très 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 difficile. Certaines le cherchent, le veau. On voit, et ça brise le cœur. Il y en a, elles l'appellent pendant 1 semaine, 10 jours. Et le veau appelle en contrepartie, parce que l'exploitation n'est pas très grande. Donc, à un mur d'intervalle, ils sont à quelques mètres l'un de l'autre, en fait.
Et pour la suite, tartare de grenadin aux herbes. Bonne continuation. Avant de passer au plat de résistance, je souhaiterais donner la parole à la cuisinière qui, elle, a conçu et élaboré et préparé le menu. Siam Manamani.
La construction du menu, elle s'est faite en partant d'idée de tout utiliser dans le veau, que ce soit les parties nobles et pas nobles, et de rappeler quelle était la nourriture du veau, normalement, et qui est donc du lait. Donc on a fini par une panna cotta. Alors, le plat principal, c'est duo de veau, sauce forestière et sauce agrumes, On emmène le veau dans la forêt parce qu'on fait une sauce aux champignons. Après, on donne un peu d'acidité dans la sauce avec les agrumes. Le tartare aussi, qui était juste avant, a été fait en partie noble. Et puis, une des choses que j'ai faites, c'est dans le tartare, j'ai mis des herbes, tout en sachant que le veau ne mange pas d'herbes. Il ne broute pas. Dans le bouillon pied de veau de retour d'Asie, là, je suis allée en Asie, j'aurais pu aller en Afrique. Parce que les gens mangent beaucoup de bouillon. Et c'est le bouillon comme la soupe, c'est la chose la plus partagée au monde. Et souvent, les gens, ils n'ont pas d'argent pour acheter les parties nobles. Donc, ils vont manger ces parties moins nobles, qui sont entre autres les pieds, la tête, les tripes. Et les os aussi, qui sont beaucoup, beaucoup utilisés pour faire les bouillons. Donc ça va être des bouillons très gélatineux. Parce qu'après, il va grandir le veau et il va perdre ça. Après, on a commencé avec la tête. Un plat qu'on ne fait plus beaucoup, qui était une tête de veau sauce grébiche. La tête était seule dans un sachet sous vide, je l'ai ouverte. Alors ça a peut-être dégoûté certaines personnes. Il avait la langue qui sortait, qui pendait. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le veau est hyper gélatineux. La tête, par exemple, comme les pieds, ça colle. Parce qu'il y a cette gélatine, en fait. Parce que, parce que c'est un bébé. Parce qu'il n'est pas encore complètement fermé. Alors j'ai coupé ça en termes de cuisine, ce serait entre une brunoise et une mirepoix. Donc c'est des carrés. Voilà. Parce qu'après, c'est plat, hein, la tête de veau. Hein. Alors le boucher, en fait, il m'a donné la tête, il m'a donné ce qu'on appelle plutôt de l'ordre de la chair, en fait, de l'externe. Mais je n'avais pas l'intérieur de la tête, je n'avais pas la cervelle, il n'y avait plus les yeux, bien évidemment, voilà. À part, effectivement, la langue.
Et ce soir, on voulait vous inviter pour ce choc un peu sensoriel afin d'ouvrir des nouvelles portes, afin de donner du sens aussi en faisant entrer Flash dans ce cycle de la vie de l'animal mangé. En ingérant ce veau, nous communions nos chairs, nos corps dominants se l'approprient. Alors après ces premières entrées, j'aimerais vous inviter maintenant au silence. Au silence rituel, je vous proposerai de fermer les yeux et de ritualiser votre première bouchée. Je vais également vous inviter à laisser les codes sociaux, puisque personne ne nous regarde. Je vous invite à manger avec les mains. Pour le plat principal, vous aurez un duo de veau et ses deux sauces. Bonne continuation. Flash est mort. Vive Flash. Depuis 3 millions d'années, le lait représente le tout premier aliment des mammifères, indispensable à la survie et au développement, mais il a toujours possédé cette charge. Encore et toujours, les mythologies du monde abondent de récits dans lesquels de nouveaux-nés sont allaités par des animaux. Zeus, Romulus et Rémus, Mowgli. Alors avant de passer au dessert, qui rappellera symboliquement le lait de la vache et la douceur maternelle, une dernière intervention de l'éleveuse.
Alors, encore une chose pour son alimentation, comme il n'était pas tout à fait fini, enfin, il a pas tout à fait, quand je dis fini, c'est la couverture en graisse et en muscles souhaitée pour l'abattage. Vu que c'est une race qui est pas... La race de la mère n'est pas faite pour l'engraissement, c'est vraiment une race... Elles sont squelettiques, les mères. Je l'ai poussé un petit peu depuis que le boucher m'a appelé pour me donner la date d'abattage. Je l'ai poussé, j'ai augmenté de 10% le ratio de poudre qu'il a dans la ration pour avoir un meilleur résultat, un meilleur rendement viande. Et là, je vois la différence depuis ces derniers... Ouais, ces 10 derniers jours, il est devenu vraiment beau. Alors, il va pas grandir, c'est un petit, mais il est devenu gros. Il y a un temps, c'était interdit de mettre du foin au veau blanc. Parce qu'en mangeant du foin, ça leur apporte du fer, et le fer apporte la couleur rouge à la viande. Parce que les grandes distributions voulaient du blanc, blanc, transparent. Donc ils nous obligeaient à carencer nos veaux, en fait. Maintenant, on a le droit de les nourrir correctement, on a même le droit de leur donner du fer à la naissance pour les aider à partir. Après, on ne peut pas le faire toute leur évolution, bien sûr, c'est une fois à la naissance. Après, ils seront trop rouges. Mais maintenant, on a le droit de les nourrir correctement.
Donc on va... Allez,
passer au dessert, pardon. Pour le côté symbolique, le lien d'une boucle qui se boucle avec la mère, le lait qui appelle la panna cotta avec son coulis de fruits rouges. J'ai la certitude que Flash restera désormais présent dans vos cœurs, dans vos souvenirs, car il y aura forcément un avant et après cette soirée. Considérez ce privilège d'être en vie, n'oubliez pas, désormais, de manifester encore davantage et plus intensément votre amour pour vous-même et pour les autres espèces, car c'est certainement notre plus grande preuve d'humanité. Avant de conclure et de clore cette performance musicale et acoustique, j'aimerais donner la parole pour une dernière intervention à Mathieu Mélan, un éleveur à Meignier de la vacherie du Car, fromagerie fermière biologique, afin de vous donner son point de vue.
Bonsoir. Rachel m'a contacté il y a à peu près 6 mois dans le but de préparer le prochain repas avec un nouveau veau et donc justement de chercher à se, chercher à se procurer un veau. Je suis éleveur bovin à Meignier et dans ce contexte-là, ben, je s'est posé un petit peu la question de dire si j'honorais ou pas sa demande. Et voilà, notre système d'élevage fait qu'on n'a pas l'habitude de produire de la viande de veau. Et après mûre réflexion, ma compagne et moi avons choisi de refuser la proposition de Rachel. Je ne cherche pas ce soir à critiquer ou à remettre en question mes collègues ou d'autres systèmes et d'autres modes d'élevage. Dans notre cas, on fait de l'élevage, donc on produit... du lait. On produit de la viande de bœuf à partir de vaches laitières. On a fait le choix de ne pas engraisser des veaux, car pour nous, l'engraissement de veaux est un système un petit peu trop intensif. C'est notre réalité parce qu'on a la place, parce qu'on a l'opportunité de le faire et qu'on a une conviction qui nous a amené à finalement écarter cette possibilité de faire de la viande de veau assez rapidement. Donc dans notre système, nous élevons des vaches qui donnent chaque année naissance à un veau, mais ce veau n'est pas séparé à la naissance. Il reste avec sa mère un minimum de 3 mois. On partage la mère entre le veau et nous. Et donc, dans ce système, on arrive à faire des veaux qui sont en bonne santé et qui grandissent naturellement, on va dire, avec leur mère, tout en prélevant une partie du lait, ce qui nous permet, nous, de dégager un revenu d'une production laitière. Donc, on cherche plus à faire des bœufs, des bovins lourds, des bovins vieux, avec ces veaux. D'autant plus que ben voilà, si finalement on le laisse grandir et que parce qu'on a la place, on arrive à faire des animaux qui vont nous donner 250 kilos de viande plutôt qu'une centaine de kilos de viande. Aujourd'hui en Suisse, je pense qu'on doit être une... Il y a 30 fermes qui sont recensées qui pratiquent ce genre d'élevage. Je pense qu'il y en a plus parce que certains éleveurs le font et n'en parlent pas. Voilà, moi je suis éleveur par choix. J'ai pas hérité, on va dire, du métier d'éleveur par affiliation. Et dans ce cadre-là, donc, j'assume pleinement le fait d'amener mes animaux à l'abattoir. Et ça m'empêche pas de m'y attacher. Voilà. Je crois que je vais en rester là. Si vous avez des questions, je suis disponible. Sinon, je retourne à ma place.
Merci Mathieu. Juste avant, pour conclure de manière rituelle, la partie cérémonielle, on va dire, est passée à la suite des festivités de manière tout à fait informelle et notamment libérer par exemple les fumeuses ou les fumeurs qui aimeraient aller maintenant se fumer une cigarette pour terminer tout ça. Je vous propose cette interprétation pour nous libérer et libérer les émotions. Merci à toutes et à tous pour ce partage rituel et très bonne continuation.
Peu de temps après, en marchant dans la forêt, l'esprit de Flash m'habitait et me renvoyait à un non-sens. Je pensais à lui comme à un être cher disparu. Le rituel avait opéré, le lien s'était créé et il parlait au nom de tous les veaux. Après cette cérémonie gustative, je me suis juré de ne plus manger de veau. J'ai souhaité refaire ce repas ritualisé avec un autre veau pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'expérience. J'ai contacté différents éleveurs et également l'éleveuse de Flash. Je me suis heurtée à des refus par crainte, peut-être par peur d'appropriation idéologique ou pour d'autres raisons, éthiques ou encore politiques. Il n'y aura donc plus de repas funéraire comme il a été conçu. La commémoration que vous venez d'entendre rend Flash encore plus unique. L'absence de sa chair laisse place à son esprit. Et quoi de mieux que la musique pour nous connecter à son âme, à nos émotions, à notre propre chair. Cette musique me renvoie à cette époque où les bêtes vivaient et mouraient proches des êtres humains. C'était Cérémonie pour un veau. Réalisation et écriture, Rachel Maisonneuve. Avec la complicité de Julien Abeglen, célébrant humaniste. Arrangements musicaux, Julien Pinol. Camille André au hautbois. Marie-Jeanne Sunier au violon. Hernan Linares au violon. Julien Pinol à la guitare. avec les voix de Julien Abeglen, Rachel Maisonneuve, Virginie Bischoff, Siam Manamani et Mathieu Mélan. Prise de son, Benjamin Vic, Julie Sando et Sophie Dascal. Mixage, Jean-Philippe Tsalan. Une coproduction Steam Matter Association et le labo de la RTS, avec le soutien du Fonds Gulliver. Vous venez d'entendre « Cérémonie pour un veau », sorti en avant-première le vendredi 19 avril 2024 au Commun, à Genève, dans le cadre de l'exposition « Mille écologies » organisée par l'association Utopiana. Pour prolonger la réflexion, en collaboration avec le labo de la RTS, vous allez entendre un extrait de la table ronde qui a suivi. Ainsi, à partir de cette expérience sonore, nos invités ont évoqué la consommation de viande et notre relation à l'animal ainsi qu'à sa mort à travers le prisme des émotions.
Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. J'espère que cette écoute vous a plu ou en tout cas qu'elle a éveillé en vous des questionnements et des réflexions. Moi je m'appelle Lila Erard, je suis journaliste pour l'hebdo roman Terre et Nature. Donc le sujet de la table ronde du jour, c'est la consommation de viande et notre relation à l'animal ainsi qu'à sa mort à travers le prisme des émotions. Donc je suis ravie d'animer ce moment d'échange en compagnie de nos quatre invités que je vais présenter brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, Marline Sahakian, donc toi tu es sociologue, chercheuse et professeure à l'Université de Genève, spécialiste de la consommation dans une perspective de durabilité et autrice d'une étude sur le rôle des émotions dans la consommation de viande publiée en 2020. Jean-Marc Charrière, ensuite, donc toi tu es un ancien éleveur habitant du Valais, donc tu as élevé des bovins comme tes grands-parents pendant des années, puis après un long cheminement, des années de pratique et une prise de conscience, tu as décidé de quitter ce métier pour devenir entre autres militant animaliste, et tu as écrit un livre, Les vaches pleurent, paru en 2020, qui est aussi déposé sur cette table rouge juste à ma droite, bienvenue. Christian Ruffenhardt, donc toi tu es le premier éleveur vaudois à avoir obtenu l'autorisation d'abattre le bétail à la ferme. Donc ça c'est une pratique autorisée officiellement en Suisse depuis 2020, qui se fait déjà dans plus d'une centaine d'exploitations dans le pays, mais qui reste encore rare. Voilà. Et donc ta ferme se situe à Longiro, dans le canton de Vaud. Et enfin Mathieu Mélan, donc éleveur à la vacherie du Car, fromagerie fermière biologique à Meignier. Donc si son nom vous dit quelque chose, c'est normal, on vient de l'entendre dans la pièce sonore à l'instant. Et donc après des études d'ingénieur agronome, tu t'es converti à l'agriculture. Voilà, et tu as une pratique réfléchie que tu as explicitée dans l'enregistrement. Voilà, donc peut-être qu'on va commencer la discussion avec toi justement, Mathieu. Donc, en tout cas, donc, justement, tu dis que tu as fait le choix de devenir agriculteur. Comment tu t'es préparé à cette question de la mort et de l'abattage d'un point de vue éthique peut-être? Enfin, comment c'est venu ce cheminement chez toi?
C'est une question qui est un peu délicate parce que pour moi ça fait partie avant tout ça fait partie de la vie. J'ai été élevé, j'ai grandi dans un milieu où la consommation de viande est chose normale et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que ça m'a paru c'est pas tellement la fin de vie qui me pose le plus de problèmes, c'est plus les conditions qu'on va donner à l'animal tout au long de sa vie. L'élevage, c'est une pratique qui est vieille de plusieurs millénaires. Mais à ce titre-là, je questionne pas tellement cette chose-là, plus les pratiques qui sont liées.
Et donc toi, tu emmènes en fait tes animaux à l'abattoir. Ça, c'est aussi un petit peu particulier. Pas tous les agriculteurs le font. Tu dis que tu assumes tes pratiques, mais que ça ne t'empêche pas voilà, de t'y attacher, un peu comme cette éleveuse aussi qu'on entend dans la pièce. Quelle place ça a, cet attachement à l'animal, dans un élevage? Et puis comment tu gères cet attachement, puis son impact psychologique, si on peut dire ça?
Ben, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. Moi, je suis éleveur parce que j'aime les animaux. Ça en fera sourire peut-être quelques-uns, mais voilà, c'est une réalité. J'aime le contact avec les animaux, j'aime l'échange qu'on arrive à avoir avec, et je suis profondément attaché à mes bêtes. Au même titre que l'éleveuse de Flash, c'est évident que les animaux qu'on prédestine à l'abattage, eh ben, sans vraiment se détacher d'eux, on le sait dès la naissance qu'on va les abattre. Donc forcément, pour nous, c'est une suite et une fin logique. C'est sûr qu'un accident, c'est toujours plus difficile pour nous parce qu'on n'a pas tout ce processus de préparation qui fait partie de notre quotidien.
Est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de rituel, finalement, lors de ce moment-là? Pas forcément comme celui-ci, évidemment, mais une autre forme.
Disons qu'un rituel, je ne sais pas, mais dans notre... on va dire, moi, j'y suis préparé. Je sais que le mercredi matin, si c'est le cas, c'est souvent les mercredis, eh ben, je sais que voilà, je vais amener telle bête à l'abattoir. J'ai réfléchi à qui est-ce qu'on allait amener. Je m'y prépare. La veille, je vais voir s'il va bien. Je vais le charger tranquillement. On essaye de faire ça dans les meilleures conditions possibles. Et puis, effectivement, ben voilà, y a une espèce d'adieu qui se fait. Mais pour moi, c'est devenu quelque chose qui fait partie de... Je le répète, qui fait partie de la vie de cet animal et de la vie de la ferme en général.
Alors justement, maintenant, peut-être, je me tourne vers toi, Christian. Donc toi, tu as fait vraiment un processus, en tout cas une démarche particulière en lien avec cet abattage à la ferme. Peut-être tout simplement, première question, pourquoi tu as fait cette démarche-là?
Alors, il faut dire comme ça que mon fils, quand il est revenu des États-Unis, il m'a dit que l'agriculture en général doit arrêter de se brader à vendre de la viande pour rien. Parce qu'on peut acheter un demi-bœuf à 25 francs le kilo et quand on voit le prix que les grandes surfaces le vendent, voilà. Donc je lui ai dit, écoute, alors tu peux tout prendre en main. Donc il a tout ça pris en main dès 2021. Et aujourd'hui, il est au marché à Morges, Lausanne et Yverdon. Et il avait mis sur son site internet que son but, c'était l'abattage à la ferme. Disons, c'est son but, mais il y a 3 ans de procédure, vu qu'on est les premiers dans le canton de Vaud, même en Suisse romande, eh ben, c'était les gens au marché qui lui demandaient, mais quand est-ce que vous allez faire le premier abattage? Et on a eu l'appui de BioVo, qui nous ont aidés à remplir tous les formulaires, parce que c'est beaucoup, beaucoup de paperasse. C'était au mois de décembre 22, et le 11 octobre 23, on a fait le premier abattage à la ferme. Et lundi passé, on a fait la 5e bête, donc maintenant on aura l'autorisation du canton de Vaud.
Et toi, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça te fait de plus avoir à emmener ces bêtes à l'abattoir et de le faire chez toi, en fait? Qu'est-ce que ça change dans ce processus?
Alors, ça change beaucoup pour la bête. Nous, c'est beaucoup plus de travail, parce qu'il y a un cahier des charges qui est impressionnant, la place doit être nickel. La cage de contention, c'est un outil qu'on met les bêtes dedans régulièrement pour les soins, pour mettre des cloches, pour remettre un bouton perdu ou n'importe. Donc, ils ont l'habitude, ils rentrent sans problème. Donc, ils sont chez eux, ils sont à la maison. Et donc, la première qu'on a fait, 10 minutes avant, elle baissait l'herbe dehors. Et puis après, c'était fini. Donc, c'est une mort, c'est fantastique, quoi. Et en sachant qu'avant, je vendais mes bêtes à Swiss Black Angus, c'est un label. Mais quand on chargeait à 2h du matin chez moi, et quand je recevais le mail à 14h, 15h, qu'il était abattu à 12h45 à Hinville, qui est à côté de Zurich, c'est impressionnant de les mettre 10 heures dans un camion. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Donc toi, au niveau émotionnel, vu que c'est aussi le sujet de cette table ronde, tu dirais que ça a changé vraiment cette mise à mort?
Pour la bête, c'est beaucoup, beaucoup mieux.
Mais pour toi?
je ne sais pas. Bien sûr, ça fait un peu quelque chose, mais nous, on a l'habitude. Il y a 2 ans, j'ai eu des très grosses casses. J'ai perdu 2 vaches, j'ai perdu 5 veaux. Donc, ça me ferait presque plus mal de voir ça. Un abattage, c'est normal, je ne sais pas, ça fait partie de la vie, quoi. Comme Virginie dit dans le truc, on doit quand même vivre de quelque chose.
Très bien. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Jean-Marc. Pour toi, dans ton parcours personnel, au bout d'un moment, la décision de mise à mort, justement, de programmer la mort d'un animal pour produire de la viande, c'était au-dessus de tes forces? C'était quoi le déclic?
Bon, c'est une longue histoire.
J'imagine.
En fait, moi déjà, à la base, moi, alors, contrairement à Mathieu, par exemple, qui disait qu'il n'a jamais remis en question le fait de manger de la viande, alors moi aussi, j'ai grandi dans une famille où c'était normal de manger de la viande, mais moi, très tôt, j'ai remis en question ça, hein, déjà. Il n'y avait pas de considération dans ma famille, il n'y avait pas de place pour ces considérations-là, donc on m'a obligé à manger de la viande. D'ailleurs, c'était... c'était très pénible pour moi. Et puis, avec l'éducation et puis à la longue, finalement, j'ai fini par me conformer à ça. Et puis, moi aussi, j'ai voulu faire éleveur parce que j'aimais les animaux. J'ai quitté l'élevage pour les mêmes raisons. Déjà, à l'école d'agriculture, c'est déjà très compliqué parce que moi, je suis arrivé à l'école d'agriculture avec l'idée justement d'élever peut-être de manière alternative. Moi, je voulais pas amener mes vaches à l'abattoir. Je voulais que faire du lait parce que bah voilà, pour faire du lait, il n'y a pas besoin de tuer l'animal, mais bah bon, ça génère tout un tas, voilà, les veaux, enfin ça génère tout un tas de d'obligations qui font que voilà, tout animal de rente est programmé, enfin a une vie programmée par ce qu'il va produire, et l'issue c'est l'abattoir. Donc voilà, et il a fallu faire un peu le deuil de ça, parce que d'un point de vue économique, mes idées, ça tenait pas, en fait. À partir du moment où j'ai repris, entre guillemets, la ferme de mon grand-père, et où j'ai mis en place le poste d'engraissement de veau, et puis le premier veau, ben, en fait, moi, je me suis fait un peu avoir par mes sentiments, parce que le veau, on lui avait donné un nom, on le caressait, on le câlinait, et puis ben, voilà, puis un jour, ben, il arrive à son poids de vente, et puis il faut le charger dans la bétaillère pour l'abattoir. Et puis ça a été le drame pour moi. Et puis moi, je me reconnais complètement dans les propos de Virginie, qui dit qu'à un moment, on déconnecte le cerveau. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire, en fait. J'ai dû complètement me couper de mes émotions pour pouvoir continuer, parce que ce premier veau, ça m'a vraiment fait mal. Ensuite, ben, voilà, j'ai coupé, et puis en fait, j'ai perdu l'essence de mon travail. Tu disais que c'est une mort fantastique. Je ne sais pas s'il y a une mort fantastique. Hein. Ça reste une mort. Ça reste un animal qui se prend une tige métallique qui lui perce le crâne et qu'on lui ouvre la gorge pendant qu'il a le cœur qui bat encore. Ça, c'est juste. Il faut juste remettre quand même dans le contexte. Voilà. Et il y a eu un moment, c'était trop. C'était beaucoup trop pour moi. Je pouvais plus accepter cet état de fait. Et c'est finalement cette trahison de l'animal, hein, où on l'élève, on essaye de faire les choses. Au mieux, puis finalement, voilà, on l'amène à la mort.
Justement, cette pièce sonore, alors qu'est-ce qu'elle a suscité en toi quand tu l'as écoutée ?
Bah, j'ai réagi assez fortement. Bah, en fait, je ne sais pas si ça a brassé un peu des choses, si c'était. Alors, ça m'a rappelé effectivement des souvenirs qui n'étaient pas forcément des bons souvenirs. Et puis, c'est vrai que tout ce rituel. Pour les humains, ça a du sens. Moi, j'ai jamais eu de rituel ou de choses comme ça, parce que, comme je disais, ça change rien au sort de l'animal. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des espèces de rituels comme ça. Il y en a, ils font même qui font des choses un peu plus spirituelles ou des choses comme ça. Alors, ça a du sens pour eux, mais ça change pas le sort de l'animal. Je suis pas resté insensible du tout à cet enregistrement. Ouais. Et bon, voilà, je me reconnais aussi dans les propos de l'éleveuse. Hein.
Alors, prenons peut-être maintenant un peu de recul sur toutes ces pratiques, tous ces points de vue, dont on y reviendra bien sûr après. Avec toi, Marline, donc, dans ton étude, tu montres qu'en Europe, en fait, on a assisté au fil du temps, avec une urbanisation rapide, croissante, à une distanciation physique en fait, et psychique entre les éleveurs, les abattoirs, les lieux de vie des consommateurs, finalement en déléguant la mise à mort à des spécialistes. Est-ce que ce type de cérémonie qu'on a écouté, ça te semble combler, un peu un chaînon manquant dans la chaîne de consommation ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est principalement le sociologue Norbert Elias qui a parlé de ce phénomène de ce qu'il appelle processus de civilisation, qui fait que sur le temps, on s'est distancé de la mise à mort de l'animal, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut acheter des poitrines de poulet sous vide à la Migros sans vraiment penser à l'animal qu'il y a derrière. Et peut-être, il y a par les labels une préoccupation sur, autour des modes de production. Par exemple, si c'est biologique, issu de l'agriculture biologique ou pas, mais moins d'accent mis par les labels sur la mort de l'animal. Et peut-être par les bouchers ou par les marchés, c'est là où le consommateur ou la consommatrice a l'opportunité de comprendre un peu mieux l'abattage de l'animal. Donc oui, il y a eu cette distanciation et ce type de rituel. Manger, c'est déjà un rituel, n'est-ce pas ? Et ouais, je pense que c'était très efficace pour nous ramener à cette question de la mise à mort de l'animal. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des peuples autochtones aujourd'hui qui considèrent les animaux comme les esprits de leurs ancêtres et vont quand même trouver les bons rites pour les mettre à mort et les manger pour leur subsistance. Donc je pense qu'il y a quand même une on l'a entendu, il y a des manières d'amener à mort qui sont différentes, on va dire. Bah, je pense que ce que ça montre, c'est qu'il y a des émotions diverses autour de différents rapports à la viande et à l'animal. Donc c'est pas clair et net, mais les émotions, c'est vraiment le sujet du soir. Donc, je me permets de dire que chez Norbert Elias, les émotions, c'est quelque chose qui cherche, c'est comme un outil pour nous contrôler. Donc, il va montrer comment, sur des siècles et des siècles, on va apprendre à plus à vouloir, je ne sais pas moi, renier l'os ou avoir un animal entier sur la table qu'on va couper. Et petit à petit, on va se distancer de cette mort et on va aussi apprendre à se comporter d'une certaine manière à table. C'est toutes des choses qu'il décrit dans son texte. Donc, on est contrôlé quelque part par les émotions, mais elles peuvent être utilisées soit pour manger plus de viande, soit dans des intérêts antispécistes.
Très bien. Alors, revenons peut-être maintenant un peu à la pratique. Donc là, voilà, ici, vous avez plein de pratiques différentes, réfléchies justement sur cette thématique. Peut-être je me tourne vers toi de nouveau, Mathieu. Justement, il y a de plus en plus d'initiatives un peu de ce goût-là, notamment à Genève. Je pense à l'entreprise Miti. Peut-être tu peux en dire plus. Je crois que tu collabores justement avec eux. Où l'idée, c'est en fait, avant de mettre à mort un animal, tous les morceaux de cet animal vont d'abord être vendus à des consommateurs qui peuvent choisir en fait qu'est-ce qu'ils veulent acheter comme morceaux. Et ensuite, voilà, l'animal sera entièrement vendu. Entièrement, peut-être pas, mais est dégusté par les consommateurs. Ça, c'est un type de démarche qui fonctionne à Genève, en tout cas.
Oui, alors c'est un petit peu, effectivement, la question du déchet, c'est un problème quand même dans les filières alimentaires, hein, mais que ce soit pour les salades comme pour les animaux. Hein. On sait qu'on jette pratiquement la moitié de la production alimentaire. Donc effectivement, si on a la possibilité de s'assurer, on va dire, une prise en charge de la totalité de la production, là on parle d'un animal, mais voilà, ça reste un produit une fois qu'il est tué, ça devient un produit de consommation. Et si on s'assure qu'il sera valorisé en entier, bah, c'est clairement préférable. Je pense qu'une grande frustration des éleveurs, c'est de faire un important travail sur toute la vie de ces animaux. Et puis finalement, à un moment, on arrive à l'abattoir et puis on perd le contrôle total sur tout ce qui va se passer après. Et je pense que ça, c'est quand même une chance de pouvoir maîtriser finalement tout jusqu'à la bouche des consommateurs.
Voilà, ça ouais. Justement, peut-être on va passer le micro. Peut-être Christian, ça c'est quelque chose qui te parle. Je vois ton regard. Justement, tu parlais aussi du fait que les consommateurs apprécient et même étaient demandeurs en fait de cet abattage à la ferme.
Oui, c'est sur les marchés que mon fils a eu les demandes. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le FIBEL. Donc c'est comme Agroscope pour les paysans ouais, standards. Et le FIBEL, c'est pour les exploitations bio. Ils font des recherches, ils font plein de choses. Donc l'automne passé, ce printemps, ils sont venus chez nous pour analyser une bête qu'on a abattue à la maison. Donc ils ont pris du sang, du poil et ils mesurent le pH pendant 48 heures. Et après, ils ont fait ça à une autre bête qu'on était à l'abattoir, qui était dans un camion, qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et chez nous, bon, c'est encore pas tout à fait sorti, mais chez nous, c'est l'hormone stress est 15 fois plus élevé à l'abattoir qu'à la maison. Donc, c'est assez clair. Donc, c'est un rapport avec la qualité de la viande aussi.
Ça se ressent sur le goût?
Disons, oui, c'est tout à fait logique. Disons, nous, en tant que paysans, on n'aurait pas besoin de faire ces études parce qu'on sait, à l'époque, quand j'étais gamin, on abattait tout à la ferme. Donc, les bêtes, elles n'y voyaient rien, si on veut.
Juste dire merci, Christian, mais on a aussi entendu à quel point c'était difficile d'arriver à abattre vos propres animaux chez vous. Vous avez dit qu'il y avait énormément de paperasse, vous avez eu besoin de soutien. Moi, je m'intéresse à la transition, à la transformation. Vous avez eu un fils qui est revenu des États-Unis, qui vous a motivé. Comment est-ce qu'on va faire pour amener plus de monde dans cette même démarche? Comment est-ce que vous voyez la suite?
Alors, c'est très intéressant, vu que je suis le premier et puis je suis assez maniaque. Donc, le cahier des charges est très, très complexe. Il faut que tout soit propre, qu'on puisse presque lécher le parterre, la cage de contention, pas de rouille, rien du tout. Il faut que tout soit irréprochable. Et donc, chez moi, ça allait bien parce que je suis tellement maniaque que ça jouait bien. Et puis, maintenant, je fais partie de la commission de Biovo. Donc, il y a déjà pas mal d'agriculteurs qui sont intéressés pour faire ça. Et ça commence à venir, mais il fallait que quelqu'un fasse le premier pas.
Est-ce que finalement, laisser la place à la mort dans l'assiette, un petit peu comme on a fait en écoutant cette pièce, si on laisse la place à la mort, est-ce qu'on en mangerait moins? Et est-ce que c'est important justement de laisser cette place-là et de réfléchir à ces questions aujourd'hui?
Je pense que c'est une bonne question, parce que si aujourd'hui toutes les personnes qui sont ici, on leur demandait de tuer eux-mêmes l'animal qui sont dans leur assiette, je ne suis pas sûr qu'ils en mangeraient. Bah, dans un système où on mange de la viande, autant le faire comme, voilà, mes camarades le font. Chacun il voit aussi comment il appréhende cette question de la mort, et puis comment, comment il voit justement la vie de l'animal, le parcours de l'animal pour arriver jusque dans l'assiette. Le message que je donne, c'est que finalement, l'acte de consommation d'un produit animal a une conséquence, et ça a une conséquence sur un animal qui a son propre monde émotionnel, pour qui sa propre vie est précieuse. Hein. Le but d'un animal, c'est quand même de rester en vie, de n'importe quel animal. Voilà, on sait aujourd'hui avec les études éthologiques que la science aujourd'hui le corrobore avec des études très, très minutieuses et qui vont assez loin jusqu'à de l'imagerie cérébrale, etc. Donc la peur, les émotions de base, tout ça, c'est des choses qui sont ressenties par tous les animaux. C'est important de se poser les questions. Et puis cette question de la mort, à mon avis, elle est importante. Et tout à chacun devrait se la poser avant de mettre un steak dans son assiette.
Peut-être pour finir sur une note sociologique, je pense que c'est toujours bien de prendre ce recul nécessaire. Comment ramener la mort dans l'assiette, selon toi?
Grande question. Moi, j'allais aussi poser la question, est-ce qu'on est confortable avec notre propre mort? Est-ce qu'on est prêt à devenir du compost? Peut-être, je voulais terminer avec ça, juste reconnaître que nous aussi, on est des êtres vivants et qu'on va un jour aussi mourir et nourrir la terre d'une certaine manière. Donc, on contribue à ce cycle, même avec nos corps.
Merci à tous d'être venus ce soir pour cette cérémonie pour un veau. Un grand merci à Anna, fondatrice de Utopiana, et qui a permis d'accueillir ce projet ici et de créer ce moment d'échange et de partage autour de cette réflexion. Pour cette création sonore, j'ai collaboré avec Julien Beglen de l'association Accor, qui est célébrant humaniste.
Merci beaucoup. Peut-être quelques mots sur le métier de célébrant qu'on connaît peu ou mal. L'idée, c'est simplement d'accompagner des individus, des couples, des familles, des artistes, dans la ritualisation de moments importants de l'existence pour ramener un peu cette conscientisation. Peut-être juste remettre l'accent sur le fait qu'on a voulu confronter avec le fait de ne même pas utiliser des services. Et il y a des gens, pendant le repas, qui n'ont pas pu manger en fait, avec les mains. Et puis de se dire, en fait, c'est trop. En fait, je n'arrive pas à manger un veau qui a toute cette biographie-là, dont je connais toute l'historique. Et il y a des gens qui ont essayé. Et ils ont dit non, on va quand même reprendre les services parce qu'au moins, il y avait encore une distance.
Peut-être finalement, je me permets de rebondir. Je crois juste le fait de passer par ce processus de rencontre avec l'animal et de l'accompagnement à la mort sans devoir forcément le tuer, ben, je crois que c'est un processus qui permet l'émotion, justement, qui permet d'entrer dans une sphère qu'on ne fait jamais, en fait, avec ce qu'on a dans notre assiette. Et finalement, en partant à la rencontre de vous, éleveurs, de votre pratique, et puis d'autres regards aussi qui sont de l'autre côté, je vois qu'il y a un processus qui part de nous, simples consommateurs, à aller acheter vraiment ce qui nous passe sous la main, le moins cher, parce qu'on n'a pas le temps, etc. Finalement, par le biais aussi de ces émotions, ben, on arrive petit à petit à rentrer une mémoire corporelle où on se retrouve devant tout d'un coup le présentoir de la COP et puis notre corps qui commence à se crisper puis à dire non, je ne peux pas parce que je sais tout ce qu'il y a derrière. Et ça m'arrive aussi voilà, de faire des écarts, mais je sais que ce processus, il est amorcé, il prend du temps et je ne sais pas dans quelle mesure tous les consommateurs sont prêts à faire cette démarche. L'objectif de cette création sonore, c'est juste de se mettre face à ses propres convictions à un moment donné et de se dire, mais en fait, est-ce que c'est OK pour moi, cette mort? Et puis, ça peut être OK, ça peut être pas OK. On est tous différents, on a tous un parcours, un vécu différent. Et que ce soit avec l'animal, mais aussi avec sa propre mort, comme tu disais, Marlene, je crois. Et ça, c'est je reviens vraiment à cette question d'expérimenter, entrer dans questionner son corps aussi et se questionner par rapport à sa propre finitude, en fait.
Finitude, c'est le mot de la fin, ça me paraît tout trouvé. Merci beaucoup pour votre présence.
Pour clôturer cette émission, voici un extrait de Viande sensible, création sonore réalisée par Rachel Maisonneuve en 2021, avec une composition musicale originale de Benjamin Vic, à retrouver sur radiobascule.ch.
Je suis maintenant vidée et tu t'apprêtes à m'avaler. Le temps buccal est révolu. Je vais maintenant accéder à ton pharynx. Dernière étape avant de terminer cette manducation, mais ne crois pas que notre aventure est terminée. Prends une autre bouchée de ma chair et honore-moi. Tu mènes cette danse, le rythme, les mouvements qui s'enchaînent pour m'emmener ensuite dans tes entrailles. Nos chairs sont à présent en osmose. Nous communions. Je suis en toi, je fais partie de toi. Être humain, je suis viande, un bout de chair, de muscle. Je suis à la fois un être mort et une matière encore bien vivante. La prochaine fois, reprends le temps de bien me choisir et de m'honorer. Car sensible je suis.
Je sentais le goût d'un animal vivant dans ma bouche.
Et j'ai appris petit à petit à l'aimer, mais il faut qu'elle soit très très tendre. Autrement, je ne peux pas la manger.
Ça fond sous la dent, ça fond sous la langue.
Du filament entre les dents, un morceau de caoutchouc recraché.
Il faut beaucoup mâcher.
Mâcher de la viande. C'est bien travailler la bouche.
La mastication aussi qui est nécessaire, j'adore, parce que ça ralentit l'absorption.
Je sais pas si mes dents sont faites. J'en ai de plusieurs types, hein. Celles qui broient, celles qui hachent, celles qui incisent.
Croqueuse de chair.
Et là, quand les triglycérides, le gras, se mélangent au sel et que le goût explose dans la bouche, cette viande chaude et rouge, je ne pense plus à la pollution, je ne pense plus à la pollution.
C'est hyper agréable.
Plaisir de bouche, c'est comme quand on embrasse. Une salivation archaïque qui se met en marche.
Nos ancêtres, les eaux préhistoriques, ils ne devaient pas en manger forcément tant que ça. Parce que ça devait être un peu relou à chasser. Quand on mange, je me dis, ah bah ils en mangeaient aussi. Il y a un petit côté un peu, voilà, on est tous un peu liés.
On mangeait de tout. De la barbe au cul. C'était très difficile pour moi, j'ai été vraiment dégoûtée.
Mais quand j'étais enfant, je ne l'aimais pas du tout. Du tout. Non, je la mâchais dans la bouche pendant longtemps. J'en faisais des boulettes et qui passaient après dans les toilettes. Voilà.
Je trouve que c'est trop dur, trop sec.
Et il faut que je me force un petit peu pour pas vomir et pour pouvoir avaler.
J'ai du mal à la cuire. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup surveiller. C'est bien cuit, c'est pas trop cuit.
J'avoue que quand les gens cuisinent de la viande, c'est dur de résister.
Le choix de la cuisson participe ensemble au plaisir de cuisiner, de goûter, de partager et de manger.
Parce que c'est la fête.
Parce que c'est divin.
Parce que je fais du sport, de protéines animales de temps en temps pour essayer de fortifier mes muscles.
Ça me fait sentir très très bien. Ça me donne beaucoup d'énergie.
Et surtout quand j'ai mes règles.
Et qu'au niveau musculaire, bah, ça fait que c'est des protéines, c'est bon pour les muscles.
Viande végétale, en fait, pourvu que cet aliment me nourrisse.
Le goût que j'avais dans la bouche était celui du foin.
La verdure, c'est aussi comme la viande, c'est un organisme vivant.
On l'a quand même tué.
tu es pour partager un beau moment ensemble et pour lui faire la fête.
Une fois que j'ai décidé que j'allais la manger, je me pose plus de questions.